Radio Kapi.
Oh, Kapi. Patience Ngannou Lambombo pour les journaux.
À la une de cette édition d'information, le comité laïque de coordination tire la sonnette d'alarme par rapport à l'avancée des rebelles du M23 et leurs alliés vers le nord du pays. Dans un communiqué publié dimanche, cette structure catholique qui demande au gouvernement d'engager des actions concrètes pour arrêter leur progression redoute une probable coalition entre le M23, l'ADF et les groupes armés Zaïre actifs dans la province de l'Ituri. La nouvelle société civile du territoire de Mambasa encourage les FRDC à continuer à défendre l'intégrité du pays aujourd'hui envahi par le M23, RDF et les ADF. Cette structure s'exprimait ainsi à l'occasion du 64e anniversaire de la souveraineté de la RDC dimanche. L'invité de ce journal est Georges Moulumba, directeur général de la Bibliothèque nationale. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, il affirme conserver encore les œuvres d'esprit datant d'avant, pendant et après l'indépendance. Bonjour à tous. Ce journal part du Nord Kivu. Le comité laïque de coordination CLC, une structure de l'Église catholique, appelle le gouvernement à agir vite et efficacement pour stopper l'avancée des rebelles du M23 et leurs alliés du RDF. Dans un communiqué publié ce dimanche, cette structure demande au gouvernement d'engager des actions concrètes sur les plans opérationnels, logistiques et communicationnels au regard de l'aggravation de la situation sécuritaire sur les terrains. Le comité laïque des coordinations redoute qu'avec la progression des rebelles vers le nord du pays, une probable coalition entre le M23, les rebelles de l'ADF et les groupes armés Zaïre aujourd'hui actifs dans la province de l'Ituri, ce qui pourrait, selon le CLC, embraser toute la partie est de la RDC et remettre en cause les efforts du gouvernement et de ses partenaires, dont la MONUSCO. Les responsables du comité laïque des coordinations au Nord Kivu, Jackson Kitambala Walassa, explique au micro de Gabriel Ouamenia.
Il faut que le gouvernement prenne les choses au sérieux parce que avec la détermination qu'on voit dans le chef du M23 qui veut à tout prix avancer vers le Grand Nord, nous pensons qu'il y a un grand danger que ces gens-là puissent se joindre aux EDF, les M23 et les EDF. De la même façon, il y a miliciens Zaïre qui sont dans l'Ituri et qui ont de lien avéré et prouvé par les experts des Nations Unies avec l'Ouganda. Et nous sommes en train d'alerter les dirigeants de faire très attention avec cette situation et d'engager des actions sérieuses qui vont empêcher cela parce qu'il y a risque que ces gens-là puissent étendre cette guerre dans tout le Grand Kivu, mais aussi dans toute la Grande Orientale. Si on ne fait pas attention, nous pouvons nous retrouver avec un pays balkanisé et nous n'aurons nos yeux que pour pleurer.
Du côté de Butembo, au lendemain des graves incidents qui ont opposé samedi des jeunes aux militaires des FARDC, l'armée dément formellement les accusations qu'elle qualifie de mensongères et trompeuses contre ses officiers engagés au front nord où ils mènent la bataille contre les rebelles du M23. Mais le bilan de ces échauffourées, lui, s'est alourdi. Une personne a perdu la vie et 5 autres ont été blessés. Guylaine Kassassia pour les détails.
Tout est parti d'une rumeur relayée par les réseaux sociaux et faisant état de la présence dans un hôtel de la ville de Butembo du commandant des opérations militaires du Front Nord. Pour les jeunes qui manifestaient, la place de militaire est au front et non dans un hôtel. Pourtant, indique le porte-parole des FARDC dans la zone, le lieutenant Rigel Mboui, le commandant des opérations du Front Nord n'a jamais été ni à Butembo ni dans un quelconque hôtel samedi dernier. Le lieutenant Mboui parle, je cite, des faits montés de toutes pièces par les ennemis de la paix, fin des citations. Il ajoute, et je cite encore, actuellement, le commandant du Front Nord se bat au front avec ses troupes pour renforcer ses positions à Kirumba et consolider celles de Kasséi et à Limbongo. Fin des citations. Rappelons que le bilan de ces incidents est d'une personne morte sur place et par balle antique de source à Butembo. 5 autres personnes ont été blessées, dont une femme. Toutes ont été évacuées à l'hôpital Matanda de la ville. Des motos et véhicules qui étaient garés au parking de l'hôtel suspecté d'abriter les FARDC ont été soit vandalisés, soit emportés par les manifestants. Quant à l'hôtel, il a été mis à sac par les émeutiers. Ces derniers ont par ailleurs forcé le gérant de l'hôtel à leur faire visiter l'établissement afin de s'assurer qu'aucun rebelle ni militaire de FARDC ne s'y trouvait. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province du Kwilu, le nombre de décès enregistrés parmi les déplacés des Kwamout vivant à Bandundu n'est fait que s'accroître. À ce jour, on compte déjà près de 100 décès au site d'hébergement des Malebo, selon le président du comité des déplacés. Ces personnes en détresse sont dépourvues de tout et ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire. Pour le ministère provincial des actions humanitaires du Kwilu, la crise des Kwamout est oubliée par le gouvernement congolais qui normalement devait venir à à ces personnes. Irène Bomaluzolo pour plus d'explications.
Les conditions de vie des déplacés de Kwamout vivant aux entrepôts du marché central de Malebo à Bandunduville ne cessent de se détériorer. Il s'agit de ceux qui ont fui les atrocités de la milice Mobondo à Kwamout à la suite du conflit intercommunautaire dit Tekeyaka. Déjà 97 décès sont enregistrés parmi eux depuis le début, rapporte leur président François Tabuku. Cela à cause de l'absence de prise en charge alimentaire et sanitaire adéquate, malgré les multiples appels à l'aide sans réponse holistique. Jérémy Biquet, le directeur de cabinet du ministre provincial des actions humanitaires du Kwilu, parle d'une crise humanitaire oubliée par le gouvernement alors que la situation reste préoccupante.
C'est une crise oubliée. C'est une crise oubliée parce que les interventions n'ont pas suivi, n'ont pas été à la hauteur des besoins. Ça fait 2 ans, nous avons encore des personnes qui n'ont pas des moyens de subsistance. Nous avons des cas de maladies qui ne sont pas prises en charge dans cette condition. On devrait les accompagner, on devrait les soutenir pour qu'ils puissent se réintégrer même dans la vie courante.
D'après le ministère provincial des affaires humanitaires qui redoute le pire, le Kwilu compte à ce jour plus de 36 000 personnes déplacées vivant notamment à Bandunduville, à Kikwit et dans les territoires de Bagata. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
La nouvelle société civile du territoire de Mambasa encourage le FARDC à continuer de défendre l'intégrité du pays aujourd'hui envahi par le M23, RDF et les ADF. Cette structure a lancé cet appel au cours d'une rencontre avec ses membres ce dimanche à Mambasa Centre à l'occasion de la célébration de la 64e année de l'indépendance de la RDC. Selon cette structure, l'essence du patriotisme doit caractériser chaque Congolais comme Lumumba et ses compagnons l'ont démontré afin d'arracher la souveraineté du pays aux mains des colons belges. Son président Jospin Paluku est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous mettons en garde toute personne animée de mauvaise foi qui voudrait se transformer à des faux Wazalendo afin de ternir l'image de l'autodéfense. Un vrai Wazalendo, c'est celui qui se donne l'engagement de pouvoir défendre son terroir, notamment son village, sa chefferie ou son territoire et en général le pays tout entier. Un vrai Wazalendo ne se donne pas au pillage des biens des particuliers, moins encore au massacre de la population.
Commémoration de l'accession à la souveraineté nationale ce 30 juin au Maniema. Les présidents de l'Assemblée provinciale appellent le Congolais à s'arrêter pour évaluer d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. Cela afin de se fixer la conduite à tenir pour le développement de la RDC. Le député provincial Makonga Taboka Iki Claude est au micro de Florence Kizalunga.
Je ne peux terminer ces mots sans penser aussi aux martyrs de l'indépendance de ce pays en ce mois de juin, dont la journée du 30 est consacrée en mémoire des dignes fils de ce pays qui se sont sacrifiés pour que notre chère nation accède à sa souveraineté. Cette journée est un moment fort pendant lequel les Congolais doivent s'arrêter pour évaluer d'où nous venons, où en sommes-nous et où allons-nous. Cadre de la province du Maniema, la journée du 30 juin devait nous interpeller tous, car après 36 ans de son existence en tant que province, nous devons être à mesure d'évaluer les avancées enregistrées et les régressions observées afin de nous fixer la conduite à tenir pour le développement de la province. Au nom de l'ensemble provincial du Maniema et au mien propre, je souhaite à toute la population du Maniema bonne fête de l'indépendance.
Et puis, Kananga, appelé autrefois Luluabourg, avait été ciblé en 1957 par les colons belges pour être la capitale de la RDC. Ils soutenaient que la ville est au centre du pays et peu menée partout au pays. Les bâtiments adaptés à une ville capitale ont même été construits en prévision de cette démarche qui a échoué après l'indépendance et la prise des pouvoirs par le feu maréchal Mobutu. Historien, le professeur Samuel Tijouk déplore le fait que certains édifices importants sont en état d'abandon et d'autres ont même disparu, comme les bâtiments où la première constitution a été élaborée. Pour lui, les autorités ne doivent pas oublier cette belle ville qui aujourd'hui risque de disparaître à cause des érosions. Le professeur Samuel Tijouk l'a dit à François Kadima.
Le Luabourg, actuellement Kananga, pour les Belges, ça devrait être la capitale du Congo belge. Actuellement la République démocratique du Congo. Les Belges ont bâti des bâtiments en miniature de certains bâtiments administratifs de Kinshasa. Luabourg était compartimenté. Il y avait des quartiers pour les Noirs et des quartiers pour les Blancs. Après l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu le coup d'État de Joseph Désiré Mobutu en 1965. Mobutu a considéré les Kassaïens comme les opposants. C'est ainsi que nous n'avons pas pu bénéficier de cet avantage que Kananga devienne la capitale du Congo. Pour le moment, la ville risque de disparaître à cause des érosions. Les Belges avaient fait autour de certains quartiers ce qu'on appelait les ceintures de sécurité.
Renforcer les liens entre la MONUSCO et la presse dans le cadre de la lutte contre la désinformation et les discours de haine, c'est l'objet d'un déjeuner de presse organisé ce dimanche à Beni à l'occasion de la fête de l'indépendance du Congo. Occasion pour ces deux partenaires de renouveler leur engagement à travailler ensemble pour l'émergence d'une presse professionnelle dans la région de Beni, théâtre de plusieurs incidents à cause de la désinformation. Guylaine Kassassia était présente, voici son reportage.
Le chef de bureau de la MONUSCO Beni a dit reconnaître le travail de la presse de Beni dans l'accompagnement de la mission dans la région de Beni. Josiah Obat, par la même occasion, a encouragé les hommes et femmes de médias à toujours vérifier les faits et à recouper plusieurs fois leurs sources avant toute diffusion pour garder l'équilibre. Les journalistes présents à la rencontre ont salué la parfaite collaboration avec la MONUSCO, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Pour eux, ce rapprochement leur permet d'être beaucoup plus professionnels. Diane Kianga, journaliste indépendante, témoigne.
Avec ce genre d'activité, on arrive à se rapprocher de la MONUSCO et la MONUSCO arrive à se rapprocher de la population à travers la presse. La MONUSCO a beaucoup aidé les journalistes de la région de Beni avec des formations. Aussi, la MONUSCO est allée loin jusqu'à doter de matériel certaines radios de la région de Beni.
Il faudrait que la MONUSCO multiplie les séances de formation des journalistes locaux avant son retrait de la zone, suggère pour sa part Chada Djuma, directeur de la radio Espoir à Beni.
Nous ne pensons pas avoir atteint la perfection dans le métier. Voilà pourquoi c'est très important que la MONUSCO puisse notamment continuer à nous former.
Ils étaient plus d'une trentaine de journalistes de la ville et territoire de Beni, dont cette femme, mais aussi quelques acteurs de la société civile locale à avoir pris part à cette séance. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, les fonds des Nations Unies pour la population UNFPA vient de doter ce week-end les centres de santé de Bassoko des lits gynécologiques. Objectif, répondre à ces trois résultats transformateurs qui sont zéro décès maternel, zéro besoin non satisfait en planification et zéro violence basée sur les genres. À cela, il faut ajouter les kits de dignité aux femmes dont la grossesse est visible. La remise de cette dotation intervient après les rapports de la division provinciale de la santé qui affirmait que les centres de santé de Bassoko enregistrent au moins 40 accouchements les mois, en tout cela avec un seul lit d'accouchement en très mauvais état. Florence Kizalunga, reportage.
Que ce soit du côté du centre de santé ou des femmes visiblement enceintes, ces dons de UNFPA a été bien accueilli. Suivez les témoignages de certaines femmes.
Je suis ici au centre de santé Bassoko. Je suis très heureuse parce que j'ai une grossesse de 8 mois et je n'avais rien pour l'aide. Remercions pour les gens des fonds des Nations Unies pour l'aide.
Je suis très heureuse parce que je n'avais rien pour la préparation de l'aide. Mais avec ça, je dis
merci.
Point focal de UNFPA Maniema, Fifi Kamana, explique le bien fondé de ces gestes.
UNFPA vient de doter le centre de santé Basoko des lits d'accouchement pouvant assurer la surveillance de la grossesse pendant l'accouchement et après l'accouchement et de 20 kits de dignité pouvant servir aux femmes frappées par l'inondation de continuer à s'ouvrir leur séance de CPN sans inquiétude car elles ont tout perdu lors de cette inondation.
Signalons que le centre de santé de Basoko se trouve dans la zone de santé de Kindu. Florence Kizalunga, Kindu, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À la frontière entre Israël et Liban, la guerre qui s'annonce angoisse les habitants. Depuis quelques semaines, les Hezbollah intensifient la fréquence et l'ampleur de ses attaques contre le nord Israël qui, lui, brandit la menace d'une opération militaire de grande ampleur sur le sud du Liban. Après 8 mois de guerre, ceux qui ne font pas partie des déplacés de part et d'autre de la frontière vivent dans l'angoisse de rester au milieu des échanges de tirs et de voir une guerre qui s'annonce.
L'invité.
Le directeur général de la Bibliothèque nationale, Georges Moulumba, affirme conserver encore les œuvres d'esprit datant d'avant, pendant et après l'indépendance. Il l'a dit dans un entretien accordé à Radio Kapi à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ce scientifique reconnaît tout de même éprouver des difficultés dans la gestion de ses patrimoines publics faute d'espace. C'est ainsi que Georges Moulumba demande à l'État d'aider la bibliothèque à faire face aux difficultés d'ordre financier et des mobilités de son personnel. Il s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, professeur Georges Moulumba.
Bonjour.
Quel est l'état des lieux de la conservation des œuvres d'esprit, notamment des photos, des ouvrages, des lettres, des discours d'avant, pendant et après l'indépendance?
L'état de conservation est, de manière générale, bon. Nous essayons de faire des efforts pour conserver ce patrimoine que nous devons transmettre de génération en génération. Et là-dedans, il n'y a pas que les livres. Il y a des photos, il y a des revues, il y a des journaux datant d'avant l'indépendance, de Congo belge, du Rwanda, Burundi. La plupart de nos visiteurs, quand ils arrivent ici, dès qu'on arrive à la photothèque, ils s'arrêtent. De manière générale, l'état de conservation est assez bon. Mais nous vivons à l'étroit. Le bâtiment est étroit. Il date de 1947. Et il n'est pas digne d'être appelé Bibliothèque nationale comme on en voit à travers le monde.
Quelles sont les possibilités d'accès à ces œuvres d'esprit?
Vous venez à la Bibliothèque nationale, vous remplissez une fiche, il y a une carte des lecteurs, vous apportez une photo passeport, vous établissez une carte et vous accédez au livre. Avec cette spécificité que les livres ne sortent pas de la Bibliothèque nationale. C'est la consultation sur place. Si vous voulez le faire conserver, vous remettez aux responsables, le lendemain, venez pour continuer la lecture.
Est-ce que les lecteurs peuvent aussi photocopier une page jugée importante d'un ouvrage?
Pour photocopier une page importante, ça, ce n'est pas autorisé. Mais il n'est pas autorisé de photocopier tout un livre.
Parmi ces œuvres, est-ce que vous gardez encore les discours historiques comme ceux de Lumumba, Kassavubu, voire Roi Baudouin?
Si. On en a. On a ça ici. On garde très, très jalousement là, ici. Et la Bibliothèque nationale, le Lumumba, le président Kassavubu, le roi Baudouin, on trouve ça.
Alors, à l'heure actuelle, quelles sont vos diverses difficultés?
Oui, mais les difficultés sont énormes. D'abord, je vous ai dit qu'au départ, nous vivons à l'étroit. Ça fait 200, plus de 250 agents sur place ici. Mais le bâtiment ne suffit pas. Nous vivons à l'étroit, donc il faudrait une grande bibliothèque pour pouvoir mettre tout le monde à l'aise. Mais on travaille par alternance. Il y en a qui viennent du jour pair, d'autres jours impair. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas assez d'espace. L'espace est réduit. Il nous faudrait une nouvelle bibliothèque nationale. Il faut que l'État puisse construire une bibliothèque aux dimensions continentales. Nous sommes un grand pays, non? Le premier grand pays francophone au monde. La bibliothèque ici ne suffit pas. Donc il faut un grand bâtiment pour pouvoir héberger tout le personnel. Ça, c'est une difficulté. Effectivement aussi, la situation de la Bibliothèque nationale. Nous sommes situés dans un quartier stratégique. Nous avons l'ANR d'un côté, nous avons le président de la République, nous avons la primature de l'autre côté, et tout le temps, il y a des militaires. C'est un quartier à haut risque.
À part les problèmes d'espace, est-ce qu'avez-vous d'autres problèmes?
Bien sûr, il y a les problèmes d'ordre financier, il y a le problème de mobilité du personnel. Les gens ne savent pas parce qu'il n'y a pas de véhicule de service. J'utilise ma voiture, et pour le besoin de service et pour moi-même. Mais le personnel se déplace difficilement. Nous avons la possibilité d'organiser ce qu'on appelle le bibliobus. Sillonner la ville, amener les livres vers les lecteurs. Ils font un bibliobus pour pouvoir placer les livres. Aller jusqu'à en Séné, Matété, passer par là pour apporter la lecture à tout le monde. Tout le monde ne peut pas venir ici. Ce sont des moyens qui nous manquent. Nous allons voir également l'antenne de Kinshasa, la ville de Kinshasa.
Professeur, avez-vous déjà franchi l'étape de la numérisation?
Nous sommes en train de numériser. On est au début. Nous avons eu un scanner de nos amis espagnols. On est en train de scanner quelques livres. On a déjà commencé. On ne peut pas ne pas passer par là. Mais ce n'est qu'un début.
Ah, surtout que nous sommes dans un pays où il fait très chaud. Quand vous gardez les œuvres en papier, ça perd la qualité facilement.
Nous avons le Courrier d'Afrique et d'autres journaux de 1950 et d'autres qui commencent à jaunir. Donc, comme je disais tout à l'heure, le temps, c'est l'ennemi numéro un de papier. D'où l'importance de la numérisation.
Professeur Georges Moulumba, nous vous disons merci.
Merci, merci de la visite, de l'honneur que vous m'avez fait. Vous êtes notre croix de transmission.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Mise en onde signée Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination de Alain Irung Mouchinge. Patience Ngalou Lambombo vous l'a présenté. Merci à vous tous de l'avoir suivi.